I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Cet épisode de Chiffon est rendu possible grâce au soutien de Bangle Up. Bangle Up est une marque française de bijoux, complice des femmes qui aiment mettre du peps et de la fantaisie dans leurs tenues. Et il y en a pour tous les goûts. Des joncs, des bracelets, des manchettes, des bagues, des boucles d'oreilles, le tout au bel émail et doré à leur fin. Alors, filez jeter un petit œil sur le site www.bangleup.com. N'oubliez pas que Noël approche à grands pas. Et puis, faire plaisir et se faire plaisir, c'est toujours élégant, non?
Êtes-vous plutôt jupe ou pantalon? Robe ou smoking? Mini-jupe ou jupe midi? Talon ou basket? Et vous, messieurs, plutôt costume trois pièces ou t-shirt et jean? Les fringues ne sont pas votre affaire ou êtes-vous une fashion victime? Êtes-vous plutôt fast fashion, luxe ou totalement éco-responsable? Mais d'abord, qu'est-ce qu'être une fashion victime? Et qu'est-ce que l'élégance? Alors vous, Gabriel, qu'en pensez-vous?
Une définition de l'élégance. Au moment où c'est difficile, vous posez des questions bien difficiles. Parce que c'est que l'élégance, beaucoup de choses, vous savez, ça comporte beaucoup de choses. Enfin, je ne peux vous dire que ce que je répète sans arrêt, qui pour moi est un fait, mais que peut-être tout le monde ne comprend pas, je trouve que les femmes sont toujours trop habillées et qu'elles ne sont jamais assez élégantes.
Pour ce nouvel épisode de Chiffon, je vous invite à me suivre en Californie avec mon invitée, Laure Gontier, qui vient de passer 3 ans à Los Angeles avec sa famille. Elle en a écrit un livre sur l'art de vivre à la californienne. Laure est rédactrice dans les domaines de la mode et des tendances, mais elle reconnaît que cette parenthèse de vie à LA a changé sa manière de vivre et de s'habiller. Bonjour Laure.
Bonjour Valérie.
Alors quand on pense Californie, on pense alerte à Malibu, short en jean, La La Land, surf, volleyball sur la plage, yoga au coucher du soleil, cool attitude. N'est-ce pas un petit peu caricatural?
Ben oui, t'as cité probablement tous les clichés qui nous donnent à tous très envie de partir en Californie. Il y a de ça et puis il y a beaucoup beaucoup d'autres choses.
Parce que c'est un peu comme quand on s'assimile la France au béret et à la baguette de pain en fait, non?
Exactement, c'est des clichés qui peuvent avoir cours, mais il y a tellement plus à découvrir et à vivre.
Pourquoi es-tu partie vivre à Los Angeles?
Alors là, il y a pas mal de raisons, bien sûr. Il y avait le travail de mon mari, comme il travaille dans le cinéma, il y avait une certaine logique à partir là-bas pour qu'il développe ses activités. Comme on a des enfants, il y avait l'envie d'avoir des enfants bilingues. Mais bon, voilà, ça c'était des raisons très, très pratiques. Et puis derrière tout ça, il y avait aussi quelque chose d'un peu plus rêveur qui était... D'aller dans un endroit ensoleillé, dont on avait cette image que tu as si bien décrite, de merveilleux clichés qui donnent envie. Peut-être qu'on avait envie de vivre dans un épisode de... Non, peut-être pas d'Alerte à la Libu, mais peut-être dans La La Land, qui n'était pas encore sorti à l'époque. Mais voilà, non, on avait envie d'une vie plus douce. On avait cette image d'une vie plus douce, on y allait en vacances. Voilà, pour nous, ça évoquait le soleil toute l'année... Et puis, au-delà de ça, il y avait aussi, on savait que cette ville où on était donc pas mal allé pour les vacances et pour le travail, vivait un boom énorme en termes de créativité sur plein de terrains, que ce soit alors la mode, mais aussi la food, les boutiques,
les nouvelles technologies aussi, j'ai vu ça.
Oui, ça me touchait moins, mais effectivement. Donc voilà, il y a eu beaucoup de raisons, et puis tout d'un coup, tout a pris forme.
J'ai d'ailleurs lu dans ton livre qu'il y a une grosse communauté française. Tu écris qu'il y a plus de 40 000 expatriés français.
Voilà, oui. En tout cas, on croise énormément de Français. Il y a 2 lycées français. Oui, il y a une grosse communauté française.
Alors, quel temps fait-il à Los Angeles? Est-ce que c'est vrai qu'il fait beau tout le temps?
Alors, on m'a beaucoup dit, voilà, toujours au rayon des clichés, « Ah, c'est génial, tu dois être en t-shirt et en tongs toute l'année. » C'est pas complètement vrai. D'ailleurs, pour tout te dire, le vêtement que j'ai le plus croisé pendant ces 3 années à Los Angeles, c'est la doudoune, tu sais, la doudoune Uniqlo, mm-hmm. qui est à la fois... c'est pas la doudoune Canada Goose, tu vois, donc c'est pas trop chaud. Mais en même temps, c'est parfait pour la journée où très souvent tu peux, hormis les mois de canicule, hein, qui sont vraiment juillet, août, septembre, oui. surtout. Disons que généralement, t'es très bien avec un t-shirt manche longue. Et puis, dès que t'es un peu à l'ombre, ou alors dès que le soleil se couche, et ça arrive assez tôt à Los Angeles.
À quelle heure?
Ben, alors, en hiver, c'est carrément 5 heures de l'après-midi. C'est assez compliqué. Ouais, en décembre, novembre, décembre, c'est des mois un peu déprimants pour ça. L'été, le maximum, c'est 8 heures. Tu vois, il n'y a pas ces nuits parisiennes où on est tous au parc à 10 heures du soir à faire des pique-niques. Là-bas, ce n'est pas comme ça. Donc voilà, il fait doux toute l'année, agréable toute l'année. Bon, il y a aussi des périodes de pluie ultra violente. Ça fonctionne aussi comme ça. Si tout d'un coup, tu vas te prendre une semaine de pluie diluvienne.
Et là, tu sortais les bottes aigle ou pas du tout?
Ouais, exactement, parce qu'en fait, la ville n'est pas du tout faite pour ça. Donc, tout d'un coup, tu te retrouves avec des rivières dans la rue. Après, comme c'est malgré tout une ville de voitures, j'étais probablement la seule, moi, qui marche, qui n'ai pas le permis de conduire, à avoir des bottes aigle. Et les autres sont en voiture, donc ils peuvent avoir des talons aiguilles, ça ne choque pas.
Et quand tu étais là-bas, justement, est-ce que les manteaux d'hiver, les pulls cachemire, les bonnets, les écharpes ne te manquaient pas?
Mais par exemple, le pull cachemire était vraiment hyper important dans mon dress code, puisque voilà, dès que il peut faire doux, mais dès que tu es à l'ombre, tu as froid, donc tu as toujours en fait à portée de toi ce petit pull ou ce petit blouson. Après, non, les gants, les bonnets, non, ça...
Ça, c'est
non,
plus
non,
pour New York.
Quand même pas, ouais, c'est pas du tout nécessaire à Los Angeles. Non, écoute, pour te dire, non, ça m'a pas manqué du tout. J'aime bien avoir retrouvé ici à Paris ce côté accessoirisation que, voilà, que tu n'as plus à LA, ou forcément tu as moins de choses dans ta silhouette. Après, c'est aussi tellement plus simple, moi qui ai passé ma vie à vouloir un peu enlever le casse-tête de qu'est-ce que je vais porter aujourd'hui et comment tout cela va s'assortir. Plus tu ajoutes de choses, plus c'est complexe, plus tu te dis oulala, ça va pas ensemble. Donc non, en fait, ça m'a jamais manqué.
Il y a un mot-clé qui ressort de ton expérience, c'est la pensée positive. Peux-tu nous expliquer cela ?
En fait, oui, là, tu fais référence au premier chapitre de mon livre, qui est d'ailleurs probablement un des plus longs. C'est vraiment ce qui m'a frappée dans mon expérience à Los Angeles. Bon, c'est pareil dans la Californie, dans toute la Californie, mais moi, il se trouve que j'habite à Los Angeles. C'est effectivement une sorte de bonne humeur perpétuelle ou qui est peut-être de façade. En même temps, quand on essaie d'être souriant, poli, d'avoir un petit compliment, un petit mot gentil tout le temps pour tout le monde, cette façade, elle crée au bout d'un moment quand même une sérénité intérieure, enfin en tout cas elle y concourt, plus que quand on est ronchon toute la journée ou à l'intérieur forcément on se sent pas très bien non plus. Donc oui, c'est quelque chose que j'ai vu beaucoup.
J'ai lu une phrase très intéressante qui pourrait servir de mantra: le bonheur ne s'attend pas, il faut le prendre.
Oui, parce qu'en fait, c'est vrai que dans le livre, je donne aussi pas mal de conseils sur comment appliquer cette pensée positive. Enfin, bon, évidemment, j'explique que j'ai vu ça, que j'en ai été témoin, que j'ai adoré et que ça m'a transformée. Mais oui, l'idée, en fait, ça, c'est quelque chose que j'ai écrit qui naît d'un comparatif forcément avec ma vie de parisienne, où c'est vrai qu'on... On est un petit peu ronchon à Paris, je le sais, je l'ai été, je le suis.
On va y revenir.
Et cette idée, on peut être là un petit peu assis sur une chaise à se dire mais pourquoi ça fonctionne pas ? Et c'est vrai que là-bas, ils ont ce côté hyper dynamique et aller de l'avant, et avec en plus cette espèce de Oui, de happy attitude qu'il leur a enseigné dès l'enfance et même dès l'école aussi.
Oui, les enfants, en fait, à l'école, on ne leur dit pas « c'est pas bien », on leur dit « yes, you can ». Oui,
tu peux. Exactement. Je l'ai beaucoup vu avec mes filles et là, on voit un peu le backlash, le revers quand on revient. On se retrouve avec des petites remarques plus perfides, je dirais, c'est peut-être un peu méchant, mais des profs, c'est bien, t'as fait ça, mais en fait, t'aurais pu aller beaucoup plus loin, alors que là-bas, c'est très bien, t'as fait ça, mais c'est formidable que t'aies fait ça.
Et ça, tu penses que ça a un impact sur les adultes, en fait?
Oui, complètement. En fait, c'est vrai qu'il y avait une bonne humeur générale dans la ville, et voilà, tout n'est pas parfait, mais en tout cas, ça, c'est agréable. Ouais.
Est-ce que tu peux nous parler du chit-chat?
Le chit-chat, oui. On emploie ce mot aussi en français, donc je pense que tu dois le connaître. Voilà, c'est chit-chatter, c'est ces petites conversations comme ça.
Petites conversations, mais avec souvent des compliments aussi.
Oui, disons, l'idée...
Tu parlais du dentiste dans le livre.
Oui, je dis dans le livre que mon dentiste a adoré mes baskets. En fait, l'idée, c'est que voilà, ils sont tout le temps en train de chit-chatter, c'est-à-dire que n'importe où et n'importe qui, donc des gens qui ne se connaissent pas, vont chit-chatter comme ça, c'est-à-dire papoter, mais de manière très brève et toujours de manière positive. Donc, par exemple, quand on fait la queue dans un supermarché, alors, on va chitchater, mais ça ne va pas être « Ouh là là, qu'est-ce que c'est long !»
Ou alors, vous m'avez doublé.
Trop, voilà, exactement, ce n'est pas ça. Ça va être plus... ça peut être n'importe quoi. Ah, elles sont sympas, vos oranges. Enfin, je ne sais pas, n'importe quoi. Ou, évidemment, énormément de compliments sur... sur un vêtement que vous portez. Voilà, le chit-chat ne se résume pas aux compliments, mais en tout cas, il part souvent de ça.
Tu disais aussi que c'est possible que dans un restaurant, on se fasse aborder par les voisins de table pour savoir ce qu'on mange, ce qu'il y a dans l'assiette et si c'est bon.
Oui, voilà, il n'est pas du tout considéré comme inopportun de... alors, je dirais entre guillemets déranger, mais là-bas, ce n'est pas vu comme ça. Son voisin pour avoir des infos, et il va répondre très gentiment, et après la conversation peut durer plus longtemps en fait.
Tu rappelles aussi que les Américains n'ont que 2 semaines de vacances par an. Du coup, pour eux, rien n'est une fête.
Oui, en fait, d'ailleurs, tu fais bien de dire que je rappelle ça. Parce que là, effectivement, je peux donner l'impression de quelque chose de complètement positif, de bisounours, en fait, puisqu'on dit, on emploie souvent cette expression, nous. Malgré tout, voilà, c'est une terre de contraste, il ne faut quand même pas l'oublier. Je dis que voilà, l'atmosphère est très positive, les gens sont, en fait, ont une sorte de gentillesse, de civilité l'un envers l'autre. Malgré tout, on sait très bien, on connaît l'actualité du pays tout entier, disons, mais qui peut aussi affecter, bien sûr, la Californie. Voilà, il y a aussi des comportements complètement inverses. Voilà, c'est complexe. Mais bon, pour revenir à ta question, effectivement, ils ont 2 semaines de vacances, donc ils profitent des... En fait, là, c'est plutôt par rapport aux jours fériés. Mmh. Ils en profitent à fond.
Les banques ont l'idée.
Créer, voilà, qui souvent ont lieu un lundi. Donc comme ça fait 3 jours de suite. Et là, ils en profitent pour vraiment faire quelque chose de très festif. Ils sont... chaque fête a ses codes, ses...
Alors, même à la Saint-Valentin, tu expliquais que les enfants s'écrivent des petits mots.
Oui, là-bas, c'est une fête... c'est la fête des amoureux, mais plus globalement, c'est la fête de l'amour. Mais dans amour, il y a aussi amitié. Et effectivement, à l'école de mes filles, il y avait on s'écrivait des petits mots, mais pour la classe entière. C'était pas directement lié à quelqu'un qu'on aime particulièrement. On apportait des petits cadeaux, on écrivait des petits mots pour tous les enfants de sa classe, pour leur dire qu'on était content qu'ils soient là, qu'on les appréciait.
As-tu réussi à t'intégrer facilement? Est-ce que les Californiens ouvrent facilement leurs portes?
Écoute, oui. Alors là, tu vois, on parlait des clichés au début. Il y a aussi ce cliché comme quoi ils sont très sympas, mais après, ils n'ouvrent pas du tout leurs portes derrière. Je ne sais pas très bien d'où vient ce cliché, peut-être du reste du pays, mais en tout cas, en Californie, je n'ai pas du tout vu ça. Au contraire, ils étaient accueillants et jusqu'au bout. Et il y a une vraie tradition à Los Angeles d'organiser des fêtes dans sa maison. Donc voilà.
Ouais, parce que tu disais aussi qu'il y a une grande mixité sociale et culturelle. Ça vient peut-être de là aussi, que les gens sont plus chaleureux.
Oui, peut-être. Ben, c'est vrai que la population mexicaine a, je crois, dépassé les 50%, enfin, d'origine mexicaine. Donc oui, et en tout cas, oui, il y a une énorme mixité culturelle. Ouais.
Alors, quand on pense Californie, on pense yoga. Mm-hmm. Alors, est-ce que tu es devenue une adepte du yoga, de la méditation ?
Là, tu dis deux choses différentes, le yoga et la méditation. Pour le yoga, en fait, je suis probablement la personne la moins sportive du monde et je me suis retrouvée dans une des villes les plus sportives du monde. Donc, je suis désolée, j'adorerais te dire que je suis devenue une grande yoga addict et je rêverais de l'être, mais je n'y arrive pas. J'arrive pas à prendre le temps, j'arrive pas à me motiver. Voilà, il y avait beau y avoir des cours partout.
Mais est-ce que c'est vrai, voilà, qu'il y a des cours partout, ouais, que les gens se lèvent super tôt, que les filles se trimballent en leggings toute la journée avec leur tapis de yoga, c'est vrai ?
Écoute, oui, ça franchement, c'est une image très, très juste. Après, comme toujours, hein, on peut vraiment, à tout ce que je dis, opposer exactement l'inverse. Il y a aussi des gens qui doivent juste bosser toute la journée et qui n'ont pas du tout le temps de faire cette formidable pause yoga. Voilà. Mais sinon, c'est un vrai lifestyle.
C'est dans la culture, en fait.
Ouais, complètement.
Alors, est-ce que la healthy life est une légende ou alors est-ce que c'est vrai, justement, tout le monde fait du yoga, mais aussi du sport ? Tu écris que la détox gourmande est un art local.
Oui. Oui, la healthy life, oui, c'est, bah, y a un côté très sain en Californie, très sportif, bien manger, enfin manger sainement. Donc non, c'est pas une vaine expression, c'est quelque chose qui a vraiment cours.
Ça veut dire qu'il n'y a pas du tout de Burger King et de McDonald's.
Si, énormément. En fait, on revient toujours à cette
société, société contradictoire, en fait.
Voilà, ouais, et des contradictions, effectivement. Ils n'ont aucun problème, justement, à aller manger un gros burger graisseux et le repas suivant à boire un jus ou à aller dans un resto
vegan.
Vegan. Et pas spécialement par souci d'équilibre. Nous, on a plus ce côté français. Oh, je vais manger une salade et puis au goûter, je pourrais manger une pâtisserie. Eux, c'est pas du tout comme ça. C'est plus apprécier les deux côtés sans forcément calculer derrière. Ils sont très, très gourmands. Mais justement, ils inventent la gourmandise dans plein de choses saines. Enfin, il y a des pâtisseries saines extraordinaires.
D'ailleurs, tu donnes des recettes dans ton livre.
Oui. Mais après, voilà, ils peuvent aussi être simplement gourmands de choses pas spécialement bonnes. Mais voilà, enfin, pas spécialement bonnes d'un point de vue santé. Mais ça s'inscrit tellement dans une vie qui est globalement healthy, saine. Donc, mais après, tu peux aussi avoir l'inverse. Hein. Je ne dis pas que tout le monde est parfait.
Et
en
toi,
Californie.
Quand tu étais là-bas, qu'est-ce qui te manquait le plus au niveau de la nourriture ? Du bon vin français, un bon fromage ?
Bon, on trouve tout hein, quand même. Après, on trouve tout à prix d'or. Mais globalement, on peut trouver tout. Je revenais toujours avec une valise remplie de choses. Alors, c'était surtout les enfants qui rapportaient des choses comme les petits écoliers, des choses comme ça. Non, moi, alors, une chose que je rapportais toujours, c'était ça va peut-être paraître idiot, de la levure diététique que je n'ai jamais trouvée là-bas et je suis une fan de levure diététique. Et pour le reste, comme au contraire, ils sont plutôt toujours très en avance à pointe de la tendance. Je trouvais plein de choses diététiques là-bas. Moi, je suis très branchée justement à une nourriture comme ça, saine, mais bonne et saine. Je suis aussi très gourmande. Donc, voilà. Honnêtement, rien ne me manquait vraiment, mais probablement parce que je pouvais trouver tout. Je n'étais pas non plus dans un petit bled perdu. J'étais quand même à Los Angeles.
Comment on fait quand on n'a pas le permis de conduire à Los Angeles ? Ce qui était ton cas, je le sais.
Exactement, oui. Je sais que ça a souvent étonné voilà, les gens avec qui j'en ai parlé. Au début, quand on est parti, le but était vraiment que je conduise là-bas. Et mon mari n'avait pas non plus le permis de conduire. Le but était vraiment de l'avoir.
Donc de passer le permis là-bas.
Voilà, puisqu'on connaissait la ville, on savait qu'il était complètement impensable de héler un taxi dans la rue. Enfin, c'est pas possible, quoi. Il y en a pas.
C'est pas comme à New York, on peut arrêter un taxi à chaque coin de rue.
Non, parce que c'est une ville énorme avec des très grandes artères toutes vides ou alors pleines de voitures, mais de particuliers, donc des embouteillages de particuliers. Mais non, il n'y a pas des taxis comme ça qui se baladent. On s'est aperçu en arrivant qu'une chose que nous ne savions pas, avait complètement bouleversé justement la ville dans son rapport à la voiture, c'est l'arrivée de Uber. Alors je sais que c'est un peu dur d'en parler en France puisqu'ils n'ont pas nécessairement une bonne image. Mais voilà, là-bas c'est complètement intégré parce que c'est devenu indispensable pour ceux qui veulent se défaire de la voiture. Et il y a une vraie envie des jeunes générations de se défaire de la voiture. Il y a un grand développement du vélo, un grand développement de la marche. Mm-hmm. C'est la révolution de la marche. Tout d'un coup, ils découvrent qu'on peut aussi marcher. Et voilà, l'envie de ne plus forcément dépendre de la voiture, parce qu'après, il faut la garer. Enfin, bon, c'est compliqué.
Mm-hmm. Et il y a beaucoup d'embouteillages aussi.
Et voilà, il y a des embouteillages. Donc, Uber a vraiment révolutionné la ville. Et nous, on a pu tenir comme ça, sans voiture, avec Uber, mais en même temps, on n'était pas non plus totalement dépendant d'Uber. En fait, on a fait du vélo, on a marché, on a pris... moi, je suis une fan du métro de Los Angeles, qui n'est pas nécessairement pratique dans le sens où il y a des quartiers entiers où il ne va pas. On ne peut pas aller en métro à Beverly Hills, par exemple. Mm-hmm. C'est pas possible, il n'y a pas de station. Moi, j'avais une station proche de chez moi, entre guillemets, c'est-à-dire à une demi-heure de marche. Il faut quand même prendre en compte les spécificités de la ville, mais après, une fois qu'on a accepté tout ça, il y a aussi un réseau de bus qui est génial. Donc voilà, il faut juste découvrir.
Il faut s'adapter. Quel est le dress code californien ?
Le dress code californien, alors, là, on va encore en revenir à cette idée des clichés que tu citais au début. Il y a une vraie image de la californienne en short en jean, en t-shirt loose.
Les cheveux au vent, blond.
Voilà, oui. Donc ça existe totalement. On en voit énormément. Sinon, après, il y a aussi énormément de choses différentes. L'idée, en fait, c'est que Los Angeles, qui est cette très grosse, très, très grosse ville, il y a énormément de... c'est une ville, très grosse ville constituée en quartiers extrêmement différents. Et l'atmosphère, la vibe, je dirais, est très différente d'un quartier à un autre. En fait, on a vraiment l'impression d'être dans des villes, voire des pays différents, quand on est à Santa Monica, au bord de la plage, et quand on est downtown, qui est une sorte de mini Manhattan, donc très urbain, avec des gratte-ciels, et quand on est à Hollywood, qui est encore autre chose, qui est très touristique, ou quand on est dans le quartier où moi j'habitais, à Silver Lake, qui là serait un peu l'équivalent de l'Est parisien, après avec des maisons, est à Los Angeles, mais pour l'esprit, ce côté très bobo. Donc, par exemple, où il y a des looks très nouvelle vague française, tu vois, la marinière, le rouge à lèvres très rouge, des filles avec la frange, tu pourrais te croire à Paris parfois. Et du côté des plages, ça va être complètement différent. Donc, il y a évidemment ce dress code dont on a tous l'image, mais il y a aussi beaucoup d'autres choses. Il y a toujours, malgré tout, un dénominateur commun, c'est la décontraction.
Qu'est-ce qu'un vêtement californien correct ?
Ah, ça c'est une expression que j'ai utilisée dans le livre. Ça fait pas référence à un look particulier. C'est plus en fait, ils ont une exigence je vais le dire rapidement, de bio. En fait, aussi bien que ce soit en nourriture, mais aussi en beauté, produits de beauté, et en vêtements, ils sont à la pointe sur tout ce qui est organique. Un vêtement californien correct. Ce serait quelque chose de plutôt en coton bio, local,
avec une traçabilité,
localement, avec un prix juste. C'est le mot en vogue en ce moment.
Qu'est-ce qu'on appelle prix juste là ?
Eh bien, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas une marge délirante et surtout. Des marges que prennent différents acteurs dans le processus, dans la chaîne de fabrication ou de vente. Et puis surtout, qu'ils soient compréhensibles. Et donc, il y a une marque qui est californienne, vraiment emblématique de ça, c'est Everlane. Mm-hmm. qui est par correspondance, ils n'ont pas encore de boutique physique. Et eux, sur leur site, ils décryptent vraiment voilà, combien ce vêtement nous a coûté. Alors, le tissu, après l'usine. Alors, ils font des visites sur leur site, des petites visites guidées de leur usine dans le monde entier.
Il y a une vraie traçabilité, en
voilà,
fait.
Voilà, on t'explique que tous les travailleurs sont payés de manière éthique, donc correcte, juste, voilà. Donc c'est ça, un vêtement correct.
Quelles sont les marques de vêtements typiquement californiennes?
Donc je viens de te citer Verlaine.
Tu parlais d'Anine Bing aussi, l'ancienne blogueuse,
oui,
c'est ça?
Non, je crois. Peut-être. Alors là, tu me poses une colle. Je sais que j'en parle dans mon... Non, Instagrammeuse plutôt, elle a un Instagram.
Ah oui, Instagrammeuse.
Oui, voilà. Oui, oui.
Elle a une chaîne de vêtements aussi, une marque de vêtements.
Et voilà, une marque de vêtements. Mais alors là, plutôt pointu. Là, tu cites un exemple très, très pointu. Non, alors, en fait, il y a aussi une chose dont on n'a pas parlé, c'est l'athleisure. Ce look très décontracté, enfin, c'est pas tant qu'il est décontracté, c'est plutôt que la tenue de yoga est devenue une tenue totalement acceptable partout, pour aller bruncher, mais aussi, bon, pour passer toute la journée, mais même la semaine. Alors, évidemment, si tu travailles dans une banque, tu vas pas arriver en
legging
de yoga, mais voilà, il y a malgré tout une vraie tendance à être habillé toute la journée en athleisure.
Donc, c'est quoi coup, c'est legging, sweat?
Oui, voilà, c'est comme si tu allais faire du yoga, pas vraiment de la gym, c'est pas non plus, tu vas pas être en jogging, mais il y a quand même quelque chose d'un petit peu chic dedans, mais d'incroyablement décontracté, confortable. Et du coup, là, la marque emblématique, ce serait Lululemon, et donc énormément de filles sont Lululemon. Voilà.
En fait, le legging, c'est le nouveau jean là-bas.
Exactement, oui.
Et au niveau de la beauté, quelles sont les marques clés ou les tics de la California Girl? Non, tu les appelles même les Cali Girl.
Oui, je
parce que quand on pense Californie, on pense à Botox.
Oula, oui. Alors là, donc, comme je te le disais tout à l'heure, alors là, on va revenir vraiment sur Los Angeles, hein, puisque c'est ce que je connais le mieux. Los Angeles, donc, c'est une concentration, une juxtaposition de quartiers à l'esprit très différent. Donc effectivement, si tu vas à Beverly Hills, tu as cette impression de Botox omniprésent. Vraiment, les filles ont toutes la bouche trop grande et le front trop tiré pour être honnête. C'est vraiment l'esthétique de là-bas. Mais après, si tu vas, je te citais le quartier de Silver Lake où moi j'habitais, c'est pas du tout la même chose. C'est vieillir normalement et joliment.
Tu dis que là-bas, la base, c'est l'hydratation.
Oui. Alors dans les gestes de beauté californiens. Donc tu vois, dans cette idée de la décontraction californienne, il y a ça donc pour le vêtement, décontraction, mais ça vaut aussi pour la beauté. Donc la beauté, elle est naturelle, voilà. Et donc on sait toutes finalement, en fait c'est assez universel, que la base d'une beauté naturelle, c'est l'hydratation. Tu peux pas démarrer juste par le fond de teint, tu peux pas tout corriger. En fait, la première chose, c'est juste de bien hydrater.
Et tu donnes même dans ton livre des recettes de masques naturels à base d'avocat.
Oui, parce qu'en fait, c'est vrai qu'il y a une vraie tendance de la beauté homemade.
Donc, ce qui est contraire au Botox.
Oui, mais le Botox, c'est le cliché absolu, c'est une image, mais que moi, je n'ai pas spécialement rencontré dans ma vie quotidienne. Quand tu vis là-bas, c'est comme si tu vis à Paris, tu ne vas pas tous les jours aux Champs-Élysées. Donc, si tu vis à Silver Lake, tu ne vas pas tous les jours à Beverly Hills. Donc, non, moi, ce n'est pas l'image que j'ai de Los Angeles.
Bon, et toi, tu m'as dit en préparant l'épisode qu'il y a la Laure d'avant et la Laure d'après, elle est.
Exactement.
Comment étais-tu avant?
Alors, avant, j'étais donc... Parisienne, probablement là le cliché de la parisienne tirée à quatre épingles, qui veut toujours être lookée, qui veut voilà toujours avoir le petit détail, qui n'est pas très décontracté, qui porte des jeans skinny, quand bien même c'est extrêmement inconfortable et ça compresse la cuisse et c'est J'ai toujours trouvé ça désagréable.
Mais tu en portais
mais
quand même.
Mais j'en portais. J'avais des petits bouts de satalon, alors que je suis une fille qui résolument aime être en basket pour marcher à toute vitesse. Voilà, j'avais des choses un petit peu contre mon gré. J'avais un sac à main qui pesait 3 tonnes.
Et t'étais plutôt heat bag ou tote bag à l'époque ?
J'ai jamais été heat bag non plus, mais j'avais un gros sac en cuir, voilà. Et aujourd'hui, effectivement, j'ai plutôt un tout petit sac en bandoulière comme j'avais à Los Angeles, et sinon, je vais ajouter un tote bag en tissu pour si j'ai besoin de transporter plus de choses.
Tu me disais aussi que tu étais beaucoup plus râleuse.
Oui, en fait, j'avais une espèce de négativité naturelle que j'ai probablement toujours eu. Est-ce le fait d'avoir vécu à Paris ou est-ce que c'était ancré en moi et ça l'aurait été n'importe où? Je ne sais pas. Toujours est-il que ça a un petit peu disparu, j'espère. J'ai l'impression que ça a un peu disparu à Los Angeles. J'ai été contaminée vraiment par cette bonne humeur dont j'étais témoin là-bas et qui, moi, m'a dénoué beaucoup de choses, m'a vraiment aidée au quotidien. Je trouvais ça tout simplement plus agréable de voir la vie avec le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Ça peut paraître vraiment basique comme idée, mais c'est pas si facile à appliquer quand on est dans une espèce de spirale un peu noire, parce que voilà, on est habitué à ça et en plus on trouve ça très sympa. Il y a un côté, parfois on sort des blagues cyniques et on trouve ça cool, et là-bas c'est pas cool du tout. Ce qui est cool là-bas, c'est de dire que vraiment t'as très bonne mine aujourd'hui.
On dirait voilà, jamais à quelqu'un t'as, oh là là, t'as une sale gueule.
Non, mais non.
Et au niveau de la mode, t'habitues différemment depuis ton retour?
Oui, ben en fait, j'ai vraiment lâché prise, je crois que c'est le mot, sur beaucoup de choses.
Sur les skinny, j'imagine.
Oui, non, mais sur la mode et puis sur beaucoup, beaucoup de choses, disons,
sur la mode.
Quotidien. Sur la mode, oui, voilà, ben j'ai plus des choses dans lesquelles je me sens totalement bien, dans lesquelles...
Là, tu portes par exemple des tennis avec des petits palmiers.
Oui, des choses qui peuvent être plus ensoleillées. Si je te dis ensoleillées, là, ça va te faire bizarre parce que je suis tout en noir et en gris, mais plus
moins doré. Une touche de doré sur les tennis.
Voilà. Non, mais c'est surtout, par exemple, tu vois, ma jupe, elle est complètement ouverte. Enfin, les portefeuilles, je peux l'ouvrir complètement. Enfin, elle ne va pas du tout entraver ma démarche. Voilà, c'est...
Tu as laissé tomber les talons ?
Oui, en fait, là, je songeais à complètement tout revendre. J'ai encore une petite hésitation parce que, tu sais, tu as toujours un peu un fantasme de vie sociale qui serait absolument formidable, dans lequel tu irais des soirées avec des talons, tu serais magnifique. Sauf que la réalité, c'est qu'il faut d'abord que je prenne le métro et que je marche, et voilà, et je ne serais pas confortable en talons. Donc, si je suis plus heureuse en basket, je crois qu'il faut complètement que j'assume que c'est la basket et j'ai pas besoin de me cacher derrière un idéal.
Et maintenant, en fait, tu t'en fiches du regard des autres aussi ?
Sûrement plus. En fait, je pense... Non, mais en fait, tu as totalement raison. Je m'en fiche probablement totalement. Non, c'est surtout... Mais en revanche, j'ai une certaine exigence de regard sur moi. Donc, tu ne me verras pas non plus sortir totalement débraillée. Voilà. En plus, je suis quelqu'un qui adore la mode. J'ai beaucoup écrit dessus. Donc, voilà, ça m'intéresse malgré tout de faire un effort. Et d'ailleurs, quand on dit décontracté, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas fait d'effort, qu'on n'a pas cherché, qu'on a pris le premier t-shirt troué qui venait. Ce n'est pas du tout ça. C'est juste qu'on a... j'essaie de penser, parce que c'est quelque chose que j'aime, penser à ma tenue, penser aux formes possibles, mais totalement pour m'exprimer moi, que ce soit complètement en adéquation avec qui je suis en ce moment.
Et probablement, une tenue dans laquelle tu es bien aussi.
Voilà, mais probablement le look que j'avais avant, quand j'étais très parisienne avant de partir... Finalement, me ressemblait aussi. Il était en adéquation avec moi-même. C'est ce que j'ai toujours cherché. Et il était probablement très bien pour celle que j'étais à l'époque. Mais maintenant, je pense dégager autre chose, être un petit peu différente. Et j'ai un look qui reflète plus ça.
Qu'est-ce qui a changé dans ta vie au quotidien ? Là, on ne parle plus des fringues. On parle de ton comportement, de ta vision des choses. Tu es devenue une adepte des pierres.
Voilà, là pour l'interview, on a posé juste devant nous des pierres aux vertus miraculeuse. En tout cas, c'est très en vogue à Los Angeles. C'est pas du tout considéré comme risible ou new age ou un peu ridicule ou un peu perché. Voilà, avoir des pierres pour booster son inspiration ou des pierres qui ont la réputation de guérir ou voilà, c'est quelque chose de très très accepté là-bas. Donc voilà,
ne l'aurais jamais fait avant.
Non, pas du tout. J'y croyais pas du tout. Après, je n'en fais pas du tout une religion, mais ça m'amuse, disons, et je me dis bah, pourquoi pas, peut-être que ça marche, peut-être que ça ne marche pas du tout, mais ça ne me coûte rien de poser cette assiette-là devant nous. En plus, on a papoté autour, ça nous apporte à toutes les deux de la joie. Donc voilà.
Est-ce que tu appliques le chit-chat quand tu vas dans ton Franprix, ton Monoprix ?
Je suis quand même un petit peu timide. En plus, alors j'ai remarqué une chose. C'est vrai que quand je revenais de Los Angeles pour les vacances, j'étais toujours très galvanisée par ça. Voilà. Donc je sortais de chez moi en souriant. J'avais la banane parce que voilà, j'étais comme ça à Los Angeles. Donc je revenais, j'étais à fond. Et là, je me retrouvais effectivement à faire des petites réflexions à la caissière, aux gens dans la file d'attente. Et j'ai vu qu'on prenait souvent pour une folle. Et donc, j'ai un petit peu arrêté. Et effectivement, maintenant, je suis plus paralysée par ma timidité. Alors là, pour le coup, le regard des autres.
Dans la conclusion, tu as écrit que le bonheur à la californienne est une philosophie de vie facile à transposer partout où l'on est. Quelle est la première chose à appliquer pour être une Cali Girl à la française?
Je dirais, c'est d'essayer. Oh, c'est quand même une colle que tu me poses parce qu'il y a quand même énormément.
J'aime bien poser des colles.
Il y a énormément de pistes, mais voilà, je pense que le lâcher prise, c'est quand même une voie à explorer qui peut être assez fabuleuse. Mais je sais pas, ça, je me sens un peu bébête en disant ça.
Absolument pas.
Non, après moi, il y a une chose plus qui me toucherait, ce serait de... Mais je ne sais même pas si c'est californien, c'est juste que moi, j'y suis arrivée parce que j'étais en Californie. Bon, c'est d'essayer d'être totalement soi. Et je pense qu'en étant totalement soi, on atteint peut-être cette espèce d'idéal de gentillesse. Est-ce que c'est un mot trop naïf ?
De bienveillance ?
Je sais pas, de bienveillance. Ah voilà, très bien. Merci beaucoup pour ce mot, c'est parfait. Voilà, ben, très bien. Mais écoute, tu as trouvé vraiment ce que je voulais dire, le mot parfait. C'est ça, c'est pour être une vraie Cali Girl, soyons bienveillantes.
Merci Laure.
Merci à toi.
Et voilà, encore un nouvel épisode de Chiffon qui s'achève. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode avec un homme ou une femme. Je ne peux vous en dire plus, je laisse monter le suspense. À très bientôt. En attendant, portez-vous bien.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.